Chapitre 18. Ils se retrouvèrent dans le bureau de Hay à 10 heures précises et reprirent les mêmes sièges qu'ils avaient occupés la veille. John Hay derrière sa large table de travail, Clarence King et Henry James dans des bergères de cuir disposées de part et d'autre de cette table, et encore tournées vers le mur de livres où avait été installé l'écran. King ronchonnait. Hay paraissait gêné que cela se produise chez lui. L'écrivain de renommée mondiale Henry James ne pipait mot. À 10h10, King déclara
« Bon sang, qu'est-ce que ça signifie ? Cet impertinent Norvégien nous ordonne, il nous ordonne de nous tenir à sa disposition à 10h et lui-même ne se présente pas ? J'ai corrigé des hommes pour moins que ça.
Benson m'a informé que Sigerson avait quitté la maison très tôt ce matin.
Très tôt, répéta Hay.
Et qu'il avait emporté son sac de voyage.
Vous avez compté les cuillères en argent ?
Demanda King. James se forçait à ne rien dire. Il était passé dans la chambre de Sigerson à 8h et l'avait trouvée vide. Son premier réflexe avait été de boucler sa valise et de fuir lui aussi, puis il s'était rendu compte que l'absence de l'imposteur pouvait lui fournir le moyen de se justifier auprès de John et Clara, peut-être même de King, si le fou norvégien ne réapparaissait pas. À 10h15, les trois hommes se levèrent.
« Je ne vois aucune raison de... »
commença Hay.
« S'il pense que... »
commença King. James rajusta son gilet et tenta de mettre de l'ordre dans ses pensées. Un inconnu entra alors dans la pièce et ferma la porte derrière lui. Même Henry James, qui avait rencontré l'homme sous cette apparence quelques années plus tôt, mit un instant à reconnaître Sherlock Holmes. Le maquillage de Sigerson avait mieux camouflé le détective que James ne l'avait admis. Holmes portait un costume anglais. Il avait les cheveux bruns et non plus noirs, et le front bien plus dégarni que celui de Sigerson. Sans la moustache et le maquillage autour du nez et des yeux, cette version de Sigerson Holmes paraissait encore plus maigre. Le visage était dominé par les joues creuses, les ombres profondes, le nez busqué, le menton puissant et les yeux perçants.
« Asseyez-vous, messieurs, » dit Holmes.
Il avait retrouvé son accent de la haute société britannique.
« Et merci d'être venu. »
« Qui ?»
commença John Hay.
« Qui, croyez-vous ?»
dit Clarence King. Holmes referma la porte derrière lui et leur fit signe de s'asseoir.
« Vous tous ici, à l'exception de Monsieur James, qui dispose de quelques indices relatifs à la vérité, me connaissez depuis quelques jours sous le nom de Jan Sigerson. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Je suis détective privé. Jusqu'à il y a 2 ans, je vivais à Londres. Je me suis rendu au Népal en 1891 et suis à Washington aujourd'hui au service du gouvernement de Sa Majesté et dans l'intérêt vital du gouvernement des États-Unis d'Amérique.
Il y eut du brouhaha et des manifestations d'indignation. Clarence King cria jusqu'à ce que des domestiques viennent toquer à la porte pour s'assurer que tout allait bien. Hay les renvoya. Seul James était resté assis. Pendant quelques instants, il se sentit anesthésié, complètement paralysé, et pendant ces instants, il fut convaincu qu'il était mort à Paris, dans la Seine, ce dimanche soir, ou alors que la profonde mélancolie qu'il avait conduite en France 2 semaines plus tôt avait eu raison de sa santé mentale. La folie était la seule explication logique à ce qu'il était en train de vivre. Mais est-ce ma folie ou celle de ce Sigerson Holmes ? Holmes attendit que le tollé retombe et que John Hay, au moins, se rassoie. Clarence King continua de faire les 100 pas, les poings serrés, son expression d'ordinaire aimable figée en une moue effrayante.
Au printemps 1891, Edward Hooper, que vous connaissez tous sous le surnom de Ned, m'a engagé pour éclaircir les circonstances du décès de sa sœur survenue en 1885 et la signification de ceci.
Il sortit de sa veste en tweed non pas une, mais 6 cartes marquées « Elle a été assassinée » et les tendit à John Hay, dont l'expression passa de la surprise à l'épouvante.
« Ned est mort !»
s'exclama Clarence King.
« Un suicide, comme sa sœur 7 ans avant lui !»«
Je sais que Ned Hooper est mort, » dit Holmes. « Je ne sais pas encore, aucun d'entre nous ne le sait, si sa mort ou celle de sa sœur Clover était de simple suicide. »
Tout le monde a admis que Clover s'était suicidé,
rétorqua King, faisant un pas agressif vers Holmes. L'autre se contenta de l'observer avec un calme en apparence totale, puis il prit sa pipe de terre noire et après avoir demandé l'autorisation de son hôte, qui hocha la tête distraitement, l'alluma.
Au moins, à en juger par l'odeur, ce n'était plus ce tabac de piètre qualité qu'il avait fumé plusieurs fois devant James sur le bateau ou dans le train.
Clover a ingurgité du cyanure de potassium alors qu'elle se trouvait seule dans sa maison,
poursuivit King. Il refusa d'un geste le tas de Bristol que Hay voulut lui passer.
Ned Hooper a par deux fois tenté de se tuer, en se jetant sous les roues d'un tramway la première fois, puis en sautant par la fenêtre du sanatorium, certains disent un asile, où il avait été interné.
Mais à notre connaissance, personne n'a assisté à la mort de Madame Adams par empoisonnement et personne n'a vu son frère Ned se jeter par la fenêtre, fit remarquer Holmes entre deux lentes bouffées qui parurent énerver King encore davantage.
On n'a pas besoin de voir la neige tomber pour savoir qu'il a neigé quand on s'endort sur de l'herbe sèche et qu'on se réveille sous une couche de neige fraîche,
grommela King. Très bien, dit Holmes. J'applaudis le recours au raisonnement inductif. Cependant, dans ce cas, nous avons un frère et une sœur qui semblent avoir attenté à leur vie, mais rien ne prouve qu'il s'agisse d'un suicide. Madame Clover Adams était devenue très amie avec une certaine Rebecca Lorne au cours de l'année qui a précédé sa disparition, n'est-ce pas?
Quoi?
Aboya King.
C'est vrai, répondit John Hay. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer Mademoiselle Lorne. Une femme charmante.
Et cette dame attendait devant l'ancienne maison de Monsieur Adams lorsqu'il est rentré chez lui et a trouvé son épouse morte à l'étage, non? Holmes ralluma sa pipe.
Et alors?
Demanda Hay. Lui aussi paraissait en colère à présent.
Mademoiselle Lorne rendait visite à Clover presque tous les jours à cette époque. Elle attendait dehors quand Adams est parti à un rendez-vous ce matin-là, ou quand il est rentré, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas Mademoiselle Lorne qui a retrouvé le corps, mais bien ce pauvre Henry.
Et Mademoiselle Lorne a quitté Washington environ un mois après le décès de Clover. Holmes avait parlé d'une voix douce mais insistante.
« Oui, elle s'est installée à Boston, »
précisa Hay.
Où elle a épousé un certain Monsieur Baxter quelques mois plus tard, durant l'été 1886, je crois. Henry a continué de correspondre avec elle pendant plusieurs années après la mort de Clover. Ils s'écrivent peut-être encore de temps en temps.
J'en doute fort, répondit Holmes. Je crois que la femme que vous avez connue sous le nom de Rebecca Lorne a été assassinée peu de temps après avoir quitté Washington. Peut-être même avant.
Vous êtes faux,
intervint Clarence King.
Attendez une minute. Reprit Hay. Parlons plutôt de cette comédie que vous nous avez jouée ces derniers jours et hier soir en prétendant être un explorateur du nom de Jan Sigerson. Que diable cela signifiait-il?
Une ruse nécessaire, répondit Holmes. Il y avait un troisième fauteuil de cuir face au bureau de Hay et il s'y assit. Ceux qui me traquent savaient que je viendrais ici pour honorer la requête de Ned Hooper.
Ceux qui vous traquent, dit Hay. Vous avez mis un sacré bout de temps à venir,
observa King.
Vous prétendez que Hooper, qui que vous soyez, vous n'avez aucun droit de l'appeler Ned, vous a demandé de l'aider à résoudre cette affaire de cartes au cours du printemps 1891. Et vous vous présentez aujourd'hui, en mars 1893, des mois après que Ned s'est donné la mort. Heureusement que vous n'êtes ni pompier ni policier.
Je suis une sorte de policier, répondit doucement Holmes. Il s'était avachi dans le profond fauteuil, une jambe posée négligemment sur l'autre. Henry James finit par recouvrer sa voix. À dessein, il s'adressa à Hay et King, ignorant l'homme assis en face de lui.
Hier soir, grâce à M. Volbeck et sa famille, nous avons reçu la preuve presque formelle que cet homme, déguisé ou non, l'explorateur norvégien Jan Sigerson. Nous les avons entendus échanger en norvégien. Nous avons entendu son Excellence M. Volbeck évoquer des amis norvégiens que Sigerson et lui avaient en commun. Nous avons ensuite vu des images de l'expédition de Sigerson au Tibet et des photos prises à Bombay le montrant avec le jeune explorateur Sven Andersedin, que les Volbeck connaissaient. Il me semble que la seule conclusion raisonnable que nous puissions tirer, c'est que cet homme se fait passer depuis longtemps pour le détective anglais Sherlock Holmes. Peut-être que les hautes altitudes de l'Himalaya ont affecté son cerveau.
Holmes retira sa pipe de sa bouche et s'esclaffa. « Mon cher James, acceptez-vous les tours de passe-passe d'un magicien avec la même crédulité que mon affirmation selon laquelle je suis Jan Sigerson ?» James se sentit rougir de colère et d'embarras, mais se força à conserver une voix calme, posée et civilisée.
Monsieur Volbeck, sa femme et sa fille n'avaient aucune raison de se parjurer en...
Ils en avaient une excellente au contraire, mon cher James, dit Holmes se levant et agitant l'air avec la tige de sa pipe.
Dès que j'ai appris que je dînerais avec les Volbeck le dimanche 26, j'ai envoyé un câble au roi Oscar II de Scandinavie afin qu'il demande à son émissaire norvégien de corroborer mon histoire et mon déguisement. Voyez-vous, j'aurai encore besoin de l'explorateur Sigerson. À l'heure même où nous parlons, M. Volbeck donne une interview à des reporters du Washington Post et un journaliste du Washington Critique pour leur raconter la délicieuse soirée qu'il a passée avec son compatriote Sigerson dans la maison de M. John Hay.
Donc, un simple câble de vous et le roi de Scandinavie se plie à vos désirs,
dit Clarence King qui avait décidé de s'asseoir dans le fauteuil que Holmes venait de libérer.
En obligeant l'un des diplomates les plus éminents de Washington, ainsi que sa femme et sa fille, à mentir à des hommes aussi respectés que John Hay et Henry James. Et vous vous attendez à ce qu'on y croit ?
Croyez ce que vous voulez, répliqua Holmes comme s'il n'en avait cure. Il s'était approché d'une fenêtre, avait ouvert les volets de bois et regardait dehors.
L'échange en norvégien, commença Henry James, était loin d'être fluide de mon côté.
Assura Holmes, se tournant à moitié de sorte que sa silhouette très caractéristique se découpait à contre-jour.
Ma plus grande crainte était que la jeune Oda, bien qu'elle ait été prévenue par son père, ne lâche une critique sur mon norvégien rudimentaire. J'en ai appris les bases lorsque j'ai côtoyé Sa Majesté le Roi Oscar II pendant 2 mois à Londres en 1888, puis 9 semaines durant l'hiver et au printemps 1891, peu de temps avant ma mort dans les chutes du Reichenbach.
« Vous avez sûrement dû régler un problème domestique très délicat, »
persifla King,
« pour que la royauté européenne vous soit si profondément redevable. »
« Il se trouve que oui, » répondit Holmes. « Mais ce n'est pas la raison pour laquelle Sa Majesté le roi de Scandinavie a ordonné à son émissaire de mentir pendant ce dîner. Le roi Oscar II sait ce qui a motivé ma mission au Tibet et ce qui m'amène à Washington aujourd'hui. » Il connaît les ennemis que nous affrontons. Ce sont aussi les siens, messieurs. Sa Majesté figure sur une longue liste de cibles qui seraient assassinées sans délai si ces gens avaient les coups des franches.
Clarence King soupira et joignit le bout de ses doigts.
Ces gens. Voici maintenant la théorie du complot et de la paranoïa. N'allez-vous donc nous épargner aucune caractéristique de la folie, monsieur, qui que vous soyez?
La remarque de King fut accueillie par un rire presque juvénile de la part de Holmes. Sans répondre, il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit 4 photographies. Il en rangea 2 et tendit l'une des 2 autres à King.
« Pourriez-vous ensuite la faire passer à Monsieur Hay et Monsieur James ?»«
Merci. » James attendit. Quand le cliché finit par arriver jusqu'à lui, il vit qu'il avait sûrement été agrandi puisque le sujet, vu de 3/4, se détachait sur un fond flou et grenu représentant une rue bondée. La photo montrait un homme au teint mat, aux cheveux bruns et raides coiffés en arrière, à la moustache soigneusement taillée à la militaire et aux sourcils obliques. Il devait avoir une petite 50aine d'années, même si seuls ses bajoues trahissaient son âge.
Il s'agit du colonel Sébastien Moran, un vétéran de l'armée des Indes et ancien des First Bangalore Pioneers. Il a plusieurs fois été cité à l'ordre du jour pendant les guerres afghanes, a reçu une médaille pour avoir tué 9 Afghans dans une bagarre à Kaboul et passé pour l'un des meilleurs chasseurs et tireurs d'Asie. Et peut-être du monde. Son nom complet est John Sebastian Moran, et on le surnomme le Tigre, même si peu de gens le savent.
Le colonel Sebastian Moran,
marmonna Clarence King quand James lui rendit la photographie.
Bon Dieu, j'ai lu ses livres. « Le gros gibier de l'ouest de l'Himalaya et 3 mois dans la jungle. »« Des mémoires de chasseurs et de sacrément bons bouquins. »
Holmes, qui tournait à présent le dos à la fenêtre, hocha la tête.
Tous 2 publiés au début des années 1880. Moran a indiqué à son éditeur qu'il était né en 1840, alors qu'il est né en 1834. Il aura 60 ans en février prochain.
« Il ne fait pas si vieux sur la photo, » remarqua John Hay. « Quand a-t-elle été prise ?»«
Il y a 1 an et demi, » répondit Holmes, « à Calcutta. Le colonel m'a suivi de Suisse en Inde dans l'intention de m'assassiner. Il a été payé une grosse somme d'argent pour ça. L'assassinat est la principale source de revenus du colonel. La deuxième consiste à emmener de riches messieurs dans des endroits où ils peuvent tuer des grands fauves, et la troisième à délester ces mêmes messieurs de leur argent à des tables de jeu.
« Engagé pour vous tuer, » dit King dans un soupir. « Et voilà de nouveau la paranoïa. »«
Oh oui, » insista Holmes. Le colonel Moran a déjà tenté de le faire deux fois, à Calcutta puis à Darjeeling. Mais ces deux tentatives ont échoué. Ensuite, ayant dépensé presque tous les gages reçus pour ce travail bâclé et ne voulant pas attendre que je ressorte du Tibet, le bon colonel est reparti à Londres. Pour l'un des plus grands chasseurs du monde, Moran a étonnamment peu de patience.
« Je ne vois pas en quoi tout cela a le moindre rapport avec... »
commença John Hay. Imaginez alors ma surprise quand, en revenant dans le Sikkim par ses hauts cols, je me suis fait tirer dessus trois fois par un fusil rapide à plus d'un kilomètre de distance. Un lourd silence tomba dans la pièce. James perçut le pas d'un domestique sur le tapis de l'escalier et le bruit d'une voiture à cheval qui passait dehors.
« Vous vous êtes fait tirer dessus trois fois ?»
dit enfin Clarence King.
« Donc vous êtes... vous devez être tout à fait mort. De sorte que nous avons affaire non seulement à un menteur et un imposteur, mais aussi à un fantôme. »
King consulta sa montre.
« Et mon temps est presque entièrement écoulé. Je dois... »
Il leva les yeux, vit ce que Holmes était en train de faire et se tut, atterré. Après avoir ôté sa veste, son gilet, son faux col et sa cravate, Holmes déboutonnait sa chemise. John Hay se leva.
« Cher monsieur !»«
Ça ne prendra qu'une seconde, » dit Holmes. Il ne portait pas de maillot de corps. Il plia sa chemise avec soin sur le dos du fauteuil le plus proche, se tourna de profil et rouvrit un volet. Pour la deuxième fois, en encore plus clairement, Henry James vit les deux horribles blessures rondes en haut du dos de Holmes, près de l'omoplate droite, correspondant au point d'entrée des balles et les cicatrices livides en forme de toile d'araignée qui en rayonnaient. Il y avait un autre dessin de cicatrices blanches juste au-dessus de la hanche droite. Holmes se retourna afin que la lumière éclaire sa poitrine, son ventre et son flanc droit. Un petit cratère rond sur la partie supérieure droite de la poitrine marquait le point de sortie d'une balle. À quelques centimètres, plus bas à gauche, il y avait une autre marque de blessure, pas circulaire mais plus affreuse encore, entourée d'un réseau plus dense de cicatrices blanches, et une autre sortie de balle était visible juste au-dessus de la hanche droite. Holmes toucha chaque blessure de ses longs doigts blancs, commençant par la plus haute sous la clavicule.
Comme je vous l'ai expliqué, l'assassin a tiré à plus de 1000 mètres de distance, trois coups en moins de 2 secondes, et m'a touché à 3 reprises.
La troisième balle, il effleura la peau meurtrie au-dessus de sa hanche, m'a atteint au moment où je tombais. Il remonta ses doigts aussi précis que ceux d'un chirurgien, jusqu'à l'affreux réseau blanc de cicatrices de la deuxième blessure. La deuxième balle ne m'a pas traversé, et mon sauveur, et chirurgien en l'occurrence, a dû l'extraire. Elle a commencé dans le dos avant de s'apercevoir que le projectile était plus près de la surface devant, sous les pectoraux. L'opération a été longue, et elle ne disposait pas d'anesthésique.
« Elle ?» demanda Clarence King d'une voix bizarrement étouffée.
« Une missionnaire anglaise du nom d'Annie Royle Taylor, » répondit Holmes en remettant sa chemise. Elle venait de tenter de rejoindre Lhasa. Son sauveur lui avait parlé en rêve, lui disant que son destin était de porter la parole du Christ à Lhasa, au Dalai Lama et à tout le royaume interdit. Mademoiselle Annie Taylor s'est donc rasée la tête et vêtue d'habits masculins tibétains. Mais elle a été découverte alors qu'elle se trouvait encore loin de Lhasa et ramenée jusqu'à la frontière. Les gardes tibétains que sa sainteté le Dalai Lama avait chargé de m'escorter pour passer l'école venaient de me dire adieu après le dernier et de faire demi-tour pour rentrer chez eux au nord, quand ils ont entendu les 3 détonations. Ils ont eu la bonté de rebrousser chemin pour retourner là où ils m'avaient laissé. J'étais inconscient et je perdais beaucoup de sang. Mes amis tibétains m'ont amené à Yatung, le comptoir commercial le plus proche situé sur la frontière. Il n'y avait pas de médecin, mais Mademoiselle Taylor avait été autorisée à résider à proximité, alors qu'elle attendait une nouvelle occasion de pouvoir entrer en secret au Tibet. Les gens du coin toléraient peut-être sa présence parce que son prénom, Annie, ressemblait beaucoup au mot tibétain signifiant « religieuse ». C'est ainsi que cette missionnaire, qui avait étudié la médecine et avait eu l'occasion de pratiquer dans les taudis de Londres et en Chine, a arrêté l'hémorragie, extrait la deuxième balle logée dans mon corps et réalisé les transfusions de sang qui m'ont sauvé la vie.
« Incroyable !»
murmura John Hay. « Oui, n'est-ce pas ?» acquiesça Holmes.
« Qu'est-ce qui nous prouve que ces prétendues cicatrices ne sont pas du maquillage, elles aussi ?»
exigea de savoir Clarence King. Holmes, qui avait déboutonné son gilet et était en train d'enfiler sa veste, suspendit son mouvement.
« Vous voulez mettre les doigts dans les blessures ?» demanda-t-il doucement.
« C'est possible, surtout dans les incisions chirurgicales. Jusqu'à la première articulation de votre index. Si vous insistez, je vais de nouveau enlever ma chemise. »«
Non !»
s'écria King, faisant signe à Holmes de s'en abstenir.
« Vous prétendez donc que le colonel Sébastien Moran a attendu la fin de l'hiver et tenté de vous assassiner quand vous êtes revenu du Tibet au printemps 1892 ?»
déclara Hay.
« Pas du tout, » dit Holmes en tendant les bras pour faire apparaître ses manchettes.
« Voici l'homme qui m'a tiré dessus. » Il sortit la deuxième photo de la poche extérieure de sa veste et la fit passer à la ronde.
C'est sans doute le seul tireur capable d'atteindre sa cible à cette distance, et il a depuis longtemps supplanté le colonel Moran dans le rôle du pire assassin du monde.
Quand la photo arriva dans les mains de James, il fut surpris de voir l'image floue d'un homme beaucoup plus jeune que Moran, des cheveux très courts implantés en pointe sur le front, des pommettes saillantes, des oreilles collées au crâne, des yeux apparaissant tout noirs sur l'image.
« Vous regardez la seule photographie connue du fils du colonel Sébastien Moran. Elle a été prise dans une rue indienne très fréquentée par un agent des services secrets anglais en poste à Delhi, qui a été assassiné le lendemain du jour où il l'a envoyé à ses supérieurs à Whitehall. C'est un mauvais cliché, mais le seul dont disposent la police et les services de renseignement. Un enfant illégitime, bien sûr. Le colonel Moran a laissé une ribambelle de bâtards à travers l'Inde, l'Afrique, l'Europe et l'Angleterre, mais celui-là a été enfanté par une jeune aventurière à Varsovie. Étonnamment, Moran a pris l'enfant à sa mère de bonne heure et l'a éduqué lui-même, le traînant aux quatre coins du globe et le chargeant de porter ses fusils et de le seconder lors de ses expéditions de chasse en Asie et ailleurs. Je ne doute pas qu'il lui ait aussi délégué certaines de ses missions plus confidentielles de tueur à gages. Le garçon a vite appris. Son prénom est Lucan. Comme je l'ai dit, il a depuis quelques années surpassé son père, devenant l'assassin le plus accompli que le monde ait jamais eu le malheur de connaître. Mais contrairement à son géniteur, il ne tue jamais pour de l'argent. Lucan tue pour ses croyances politiques fanatiques. Dans ce cas précis, son but et son dieu ont pour nom anarchie. À cet égard, il ne pourrait être plus différent de son père, le colonel Moran. Et pourtant, ils ont tous deux fini par servir le même maître au Sikkim, le long de la frontière avec le Tibet. Le groupe anarchiste international qui a payé le colonel Moran pour me suivre en Inde en 1891, puis, le père ayant échoué, envoyé Lucan l'année suivante.
« Les anarchistes !»
marmonna Clarence King.
« Revoici le complot. »
« Un complot très réel, j'en ai bien peur, » dit Holmes. Moi aussi, j'étais sceptique quant à la menace anarchiste, lorsque je suis venu en Amérique pour enquêter sur l'assassinat de votre président Garfield. Il n'y avait d'ailleurs pas de complot direct dans cette affaire. Mais plus tard, j'ai acquis la certitude que c'était Moran, le tueur à la solde des terroristes anarchistes pendant ce qu'on a appelé les émeutes de Haymarket Square à Chicago en 1886. Les coups de feu ayant tué 3 des 4 civils et 4 des 7 policiers morts avaient été tirés d'un toit à 100 mètres de la place, comme je l'ai prouvé sans doute possible à la police et aux autorités américaines. Moran et son complice, qui n'était pas Lucan, avaient utilisé les mêmes fusils Lebel que celui laissé derrière lui par le colonel lorsqu'il avait tenté d'assassiner Sa Majesté à Londres l'année suivante.
« Je n'ai rien lu là-dessus, » observa Hay.
« Et vous ne lirez rien. » Du moins tant que la menace terroriste contre l'Angleterre, l'Europe et les États-Unis n'aura pas été écartée.
Cette menace me semble assez désorganisée et aléatoire, monsieur Holmes, dit John Hay.
John croit-il vraiment que nous avons affaire à Sherlock Holmes, songea James.
Les plans de ces gens ne sont ni désorganisés ni aléatoires, expliqua Holmes. Ils ont établi une liste de présidents et de souverains qu'ils projettent d'éliminer. En 1887, je vous l'ai dit, ils ont engagé Moran pour assassiner Sa Majesté la Reine Victoria le jour même de son jubilé d'or. Moran a été bien trop près de réussir.
Il a laissé son nouveau fusil Lebel, le premier modèle à utiliser des munitions ne faisant pas de fumée, à Londres, et grâce à certaines techniques que j'ai affinées au fil des années, j'ai été capable de prouver que c'était l'un de ceux qui avait été utilisé à Haymarket Square. La liste dressée par les anarchistes demeure d'actualité. Ils projettent actuellement d'assassiner votre président Cleveland le 1er mai, jour de l'inauguration de l'exposition universelle à Chicago. Je dois rester en Amérique, le temps d'arrêter ça.
Moran, père ou fils ?
Demanda King. Quoi ?
Vous avez expliqué que Moran avait tenté de tuer la reine Victoria il y a 6 ans,
dit King.
Était-ce le colonel Moran ou le jeune Lucan Moran ?
Oh, le seul Moran dont nous parlons est le colonel, répondit Holmes. Il n'a jamais transmis son nom à son fils.
Puis-je voir la deuxième photographie ?
Demanda John Hay. Holmes, à qui King l'avait rendue après qu'elle était passée de main en main, alla la poser sur le revêtement en cuir du bureau face à Hay.
« Je connais ce jeune homme, » murmura-t-il. « C'est le jeune cousin de Rebecca Lorne, l'ami de Clover Adams. Son nom est Clifton Richards. Ce n'était qu'un adolescent, mais Clover aimait bien discuter photographie avec lui. »
« C'est lui qui lui a fourni les nouveaux produits chimiques qu'elle utilisait pour le développement, » affirma Holmes, « dont la solution au cyanure de potassium. »«
Oui ?» « Oui, je crois que c'est exact, »
dit Hay d'une voix pincée. « Ça l'est, » confirma Holmes. Il sortit une troisième photo de sa poche et la posa sur le bureau devant Hay. James et King se levèrent et allèrent se placer à côté de leur ami pour la regarder. C'était manifestement une photo prise par un professionnel, le genre de cliché réalisé pour des célébrités, et la femme était aussi séduisante et magnifiquement vêtue qu'une célébrité. Des cheveux bruns relevés en sculpture sophistiquée, de grands yeux noirs animés par un subtil éclairage, des lèvres pleines, au même niveau que ses élégantes mains levées pour tenir l'ombrelle qui la protégeait.
« C'est Rebecca Lorne !»
s'exclama Hay.
« Elle est plus jeune que quand je l'ai connue, quelques mois avant la mort de Clover, mais je suis sûr que c'est la même femme. Très attirante !»«
Oui, » approuva King.
« Moi aussi je l'ai rencontrée à cette époque, cette Rebecca. » Je me souviens que Clover l'avait d'abord aperçue par la fenêtre de leur ancienne maison, celle où elle est morte, située au 1607 H Street, tout près d'ici. Clover l'avait vue se promener seule tous les jours dans Lafayette Square pendant plusieurs semaines avant de descendre se présenter. Après ça, elles étaient devenues des amies proches, même durant les longues périodes où Clover souffrait de mélancolie.
Et curieusement, dit Sherlock Holmes, la mélancolie de Madame Adams n'a fait qu'empirer malgré les efforts de sa nouvelle amie et du jeune cousin de celle-là, Clifton, pour lui remonter le moral.
« Je me souviens d'Adams disant que Clover avait photographié plusieurs fois Rebecca », précisa Hay, touchant les bords du cliché de la ravissante femme.
« Ned Hooper me l'a appris il y a 2 ans », ajouta Holmes très doucement.
« Et elle a aussi photographié le cousin de Rebecca »,
intervint Clarence King.
« J'ai vu des tirages de photographies du jeune homme prises par Clover lors d'un pique-nique à Rock Creek Park, où ils étaient tous allés. Elle m'a dit qu'il aurait dû faire un bon sujet photographique, mais qu'elle n'avait pas dû déclencher l'obturateur parce que son visage était toujours flou, comme s'il avait bougé, alors qu'elle avait insisté pour qu'il reste immobile. »
« Un mouvement sûrement délibéré pour flouter ses propres traits, » murmura Holmes.
« Mais je crois qu'une ou deux images du cousin sont bien sorties, » dit King. Seulement, Clover ne les jugeait pas assez bonnes selon ses critères exigeants.
Adams a-t-il encore ses photos ? Demanda Holmes. Du cousin et de Mademoiselle Lorne ?
J'en suis sûr, répondit John Hay. À présent légendé et archivé. Mais il ne vous permettra jamais de les voir,
assura Clarence King.
Adams ne peut pas parler de Clover, encore moins de sa mort. Et il ne montrera ses photos à personne.
C'est la raison pour laquelle il me faut entrer dans la maison d'Adams, à côté, en l'absence des domestiques et avant le retour de M. Adams cette semaine. Si Clover Adams a réussi une photo nette du jeune cousin de Rebecca Lorne, ce sera le second portrait dont disposeront les services secrets et les polices du monde entier du principal assassin anarchiste.
le fils illégitime et brillant protégé du colonel Moran, Lucan.
Si Clifton était-ce Lucan,
dit Hay, tenant toujours la photo entre ses doigts parfaitement manucurés.
Alors, qui était Rebecca Lorne?
La mère de Lucan, qui l'a tué peu après qu'ils ont manigancé ensemble la mort de Clover Adams, déclara Holmes. Il prit la photo des mains de Hay et la rangea soigneusement dans sa veste.
C'est là un cliché plus ancien, je l'ai depuis des années, messieurs. De la mère de Lucane, ancienne diva de l'opéra, comédienne et maître chanteuse du nom d'Irène Adler.